Français, français.
Ladies and gentlemen,
c'est Jacques Chirac qui vous parle.
Je dis quand même, qu'est-ce qui vous tend la main là? Qu'est-ce qui vient là?
C'est Monsieur Sarkozy.
Bah Manu, tu descends.
La France n'est pas un pays réformable. C'est un peuple qui déteste cela.
Moi, président de la République.
Voilà donc, encore une fois, ensemble.
Bonjour à tous, nous voilà une nouvelle fois ensemble. Je suis Quentin Warlop, je vous accompagne sur la route de l'élection présidentielle française depuis maintenant près de 6 semaines. Sixième numéro de votre podcast Voix de France avec non pas deux invités mais trois aujourd'hui. Edoui Plenel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur du site d'investigation Mediapart, ancien rédacteur en chef du journal Le Monde. Avec nous aussi Marc Cirlerot. Salut Marc.
Salut.
Marc, journaliste politique pour la RTBF. Et une petite nouvelle pour nous accompagner aujourd'hui, Johanna Bouquet. Bonjour.
Salut Quentin.
Salut Johanna, tu es journaliste pour Tarmac. Tu suis la campagne pour les éditions digitales de la RTBF. On est à 27 jours du premier tour et plus que jamais, on a l'impression d'une campagne à deux visages quelque part, celle des candidats et celle du président, ou plutôt du candidat, comme il aime à le rappeler dans sa nouvelle série télévisée sur ses réseaux sociaux, Emmanuel Macron. On écoute un extrait de l'épisode 2.
J'arrive au service là. Ouais, je suis là dans 5 minutes, 10 minutes.
D'abord, c'est émouvant pour moi de retrouver beaucoup de visages.
Ouais.
C'est quand même des combats. Il y en a beaucoup qui ont cru en moi quand vraiment personne n'y croyait.
Merci d'avoir préparé cette campagne un peu dans l'ombre et dans cet entre-deux. Parce que pour qui me connaît, bon, essayer de diriger ou organiser la campagne, c'est déjà très très dur. Mais alors, essayer d'organiser ou de diriger une campagne qui en fait ne peut pas partir officiellement, c'est vraiment un cauchemar.
Edoui Plenel, le candidat, comme il veut qu'on l'appelle, c'est pour qu'inconsciemment, les gens pensent, ou en tout cas ne disent qu'il n'y a plus que lui dans cette campagne ?
Ce petit sitcom viral montre au fond ce qui est le projet actuel d'Emmanuel Macron. Il y a 5 ans, il s'est fait élire sans programme et là, il veut se faire élire sans campagne. Il n'y a rien dans cette petite vidéo, il n'y a rien d'autre que lui, que sa personne, il n'y a aucun contenu, aucun projet, aucune autre chose que le fait qu'il existe et qu'il est en place.
Alors le thème d'aujourd'hui, ce qu'on va aborder en tout cas, c'est comment Emmanuel Macron a fait éclater la gauche et la droite. Marc, en 2016, on se souvient de ce putsch, hein, on peut l'appeler comme ça, ce moment où Emmanuel Macron quitte le Parti Socialiste pour fonder son propre mouvement.
Oui, il faut bien dire que le Parti Socialiste l'a bien aidé, et notamment le quinquennat de François Hollande, avec un quinquennat marqué par un PS divisé, déchiré entre une aile gauche, avec les frondeurs, mais aussi avec des personnalités comme Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, et puis une aile droite, social-libérale, social-réformatrice, qui est un peu tout le courant de Dominique Strauss-Kahn, et des gens qui ont été très rapidement tentés pour aller beaucoup plus vers la droite ou vers le centre, dans la façon de gérer le pays avec François Hollande. Et ces deux gauches ne se sont jamais vraiment retrouvées, ces deux PS se sont jamais vraiment retrouvées, et François Hollande n'est jamais parvenu à faire la synthèse. Et qui en a profité ? Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron qui quitte donc le Parti Socialiste courant 2016. On se souvient de cette date, le 16 novembre 2016 à Bobigny. Il se déclare candidat. On écoute un extrait de son discours.
J'ai vu de l'intérieur la vacuité de notre système politique qui empêche les majorités d'idées au motif qu'elles fragilisent les appareils, les partis traditionnels, les intérêts acquis, qui ne poursuit plus au fond l'intérêt général mais son propre intérêt, qui a transformé la vie des Français en simple décor de son propre théâtre d'ombre.
Johanna, c'est un hold-up parfait à l'époque d'Emmanuel Macron.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a même certaines personnes qui parlent de casse du siècle à ce moment-là. Et le plus étonnant, donc je rejoins tout à fait Marc, c'est qu'à cette époque-là, on a l'impression que même François Hollande ne le voit pas venir. À l'époque, on parle du petit prince de l'Élysée, mais très vite, il se comporte un peu comme l'enfant roi. On voit sur certains déplacements avec François Hollande que François Hollande cherche son ministre un peu partout. Et on voit aussi que Emmanuel Macron a préparé ça. Enfin, il a commencé à ratisser, il a commencé à utiliser ses réseaux, etc., à monter son équipe aussi, de l'intérieur déjà un petit peu.
Edwy Plenel, est-ce que cette fracture entre la gauche et la droite, elle n'a pas finalement commencé avant 2017, peut-être même avant 2016?
Oui, comment dire, Emmanuel Macron est le produit d'une décomposition profonde de la gauche dite de gouvernement, de la gauche électorale, de la gauche de pouvoir, de la gauche qui a tourné le dos à son enracinement populaire, aux mobilisations de la société autour d'Emmanuel Macron, qu'il s'agisse de son parti, qu'il s'agisse de ceux qui font la politique, même dans les relais auprès des élus, ce sont des anciens socialistes, soit, vous l'avez dit, proches de Dominique Strauss-Kahn, soit même issus d'autres apparences du PS. Donc fondamentalement, c'est cela le point de départ. Après, Emmanuel Macron est servi par une culture politique française qui, à mon avis, fait de la France un pays démocratiquement très fragile, qui est le bonapartisme français. Comme j'aime le dire, nous sommes la dernière monarchie, une monarchie élective, mais la dernière véritable monarchie européenne, avec un pouvoir immense. Regardez, actuellement, on a une situation de crise immense en Europe. Il n'y a aucun débat, il n'y a aucune consultation, il n'y a aucune transparence des décisions prises par le président. Donc voilà, il est propulsé par cette décomposition qui d'ailleurs se poursuit aujourd'hui. Il suffit de voir l'état de la campagne du Parti socialiste avec Anne Hidalgo. Et ensuite, il a cette arme. Une fois qu'on est en place, c'est un bunker, l'Élysée.
Oui, il faut bien dire que la décomposition s'aggrave, et on va citer simplement un chiffre. Rappelez-vous, en 2012, il y a Hollande et Sarkozy à deux fonds, 56%. Aujourd'hui, si on se base sur les sondages, si on prend Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, en termes d'intention de voix, elles font à deux 12-13%, alors qu'elles incarnent les deux principaux partis de ces 40 dernières années, pratiquement dans le système politique français. Ça montre bien qu'il y a une vraie décomposition. Et il a compris aussi une chose, Emmanuel Macron. On a toujours dit pendant des décennies que pour gagner une élection, il fallait la gagner au centre. Eh bien lui, il était prendre l'aile droite de la gauche, il était prendre l'aile plutôt centriste de la droite, et il a pris François Bayrou avec lui.
Exactement, et cette fracture de la gauche et la droite, elle est illustrée notamment par une petite capsule demandée par nos collègues de C8. À l'époque, Emmanuel Macron, il est interrogé par une classe d'enfants. On lui demande, en tout cas les enfants lui demandent, en une minute de différencier la gauche et la droite, et ça veut tout dire. On écoute sa réponse.
Vous avez une minute, top chrono.
Top.
Ok, donc la droite, c'est une famille politique française pour laquelle le plus important, c'est sans doute la liberté. Et la gauche, c'est une famille politique française pour laquelle le plus important, c'est sans doute l'égalité. Là, c'est que les gens soient libres. Il y en a qui vont réussir, d'autres non. Tant pis. Là, c'est que les gens soient égaux, mais ils sont pas forcément libres. C'est pour ça que moi, je crois qu'on a besoin d'un peu d'égalité, d'un peu de liberté. Parce que c'est quoi la devise française ?
Liberté, égalité, fraternité.
Eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top.
Johanna, quand on entend le président, du coup, maintenant il est président, à l'époque il n'était pas encore, on sent qu'Emmanuel Macron n'est déjà pas de gauche, pas de droite. C'est le fameux en même temps à gauche, en même temps à droite.
Oui, et le en même temps, c'est peut-être le point central de ce qui pourrait définir le macronisme aujourd'hui. En réalité, quand on écoute les experts, quand on écoute les observateurs politiques, on a beaucoup de mal à définir qu'est-ce que le macronisme aujourd'hui. Ça, c'est le premier élément. Et à l'époque, à ce moment-là, c'est ce en même temps qu'il le définit et qu'il l'a défini tout du long. Et surtout, au moment où il crée son mouvement, il arrive à quelque chose en termes de communication qui est assez fort. C'est que alors c'est pas que grâce à lui. Les partis et le contexte de l'époque l'ont beaucoup aidé. Mais il arrive à rendre le terme de parti limite has-been, en fait. Ça en devient presque un gros mot à un moment.
Oui, parce que vous dites bien, il bénéficie de concordances, de temps, d'événements. On se rappelle, Edwy Plenel, à l'époque, il y a le Penelope Gate aussi. François Fillon est en tête des intentions de vote. Il est annoncé comme le futur président et finalement, il n'en sera rien.
Devant 15 000 témoins, je veux dire à Penelope que je l'aime et que je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont choisi de nous jeter au loup.
Oui, bien sûr, il y a eu des événements différents entre le renoncement de François Hollande qui a explosé lui-même sa présidence avec ses confidences à deux journalistes, les divisions internes du Parti Socialiste et évidemment le crash d'un François Fillon révélant son appétit pour l'argent qui a été jusqu'encore récemment, c'était l'argent russe, l'argent de Monsieur Poutine. Mais par rapport à votre description du pays, je trouve qu'il manque quelque chose. Le « en même temps » a très vite disparu. Cette présidence a été de droite et de droite, dans les choix économiques, dans les choix sociaux, sur les questions de liberté, dans l'autoritarisme, dans la répression, notamment des mouvements sociaux. Et du coup, elle a fait la courte échelle dans cette décomposition des partis traditionnels à une autre force politique. Dans votre statistique, il faut surtout additionner aujourd'hui Marine Le Pen et Éric Zemmour. Et Éric Zemmour montre un autre aspect de la décomposition du système que Emmanuel Macron a accéléré et aggravé. Éric Zemmour ne vient pas de l'extrême droite, il vient du cœur du système, médiatique. Il a voté François Mitterrand en 88, Jean-Pierre Chevènement en 2002. Et aujourd'hui, nous avons un pays, pas n'importe lequel, en Europe, qui est dominé dans son agenda médiatique, idéologique, politique, par des thématiques fascistes, racistes, xénophobes, d'extrême droite. Et ça, Emmanuel Macron en est responsable. Il a été élu contre ça au second tour, ne l'oubliez jamais. Et du coup, qu'a-t-il fait un an et demi après? Il a lui-même fait un tournant identitaire. Il a lui-même fait des confessions à Valeurs Actuelles, le journal qui symbolise ce tournant d'extrême droite dans le paysage médiatique. Il a lui-même évolué et basculé dans les thématiques. Alors évidemment, dans la campagne là, dans la non-campagne qu'il fait, et probablement qu'il utilisera d'autres mots, mais fondamentalement, et c'est le vrai problème français, l'hypothèque de l'extrême droite sur une grande démocratie européenne, eh bien, elle est plus forte que jamais. Et ça, c'est la responsabilité des trois présidences écoulées, de Nicolas Sarkozy, de François Hollande et aussi d'Emmanuel Macron.
À droite, aïe, 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 républicain comme toi. La droite dure et sans complexe, réveille en toi des réflexes. À droite, oulala, pas la droite qui vire au combat. Si elle porte ce drapeau-là, il y a une odeur là, vous trouvez pas?
On entend donc, Edwy Plenel, que le macronisme a basculé côté droit. Pourtant, Marc, à l'époque, Emmanuel Macron, il rallie quand même autour de lui des figures, des noms plutôt de la gauche. Véran, Le Drian, Elisabeth Borne, Christophe Castaner notamment.
Oui, mais justement, à gauche, il ne doit plus rien aller chercher. Il ne peut plus rien aller chercher. Quand vous voyez maintenant les intentions de vote pour Hidalgo et pour Jadot, il n'y a plus grand-chose à aller chercher. S'il doit aller chercher, c'est à droite. Et les gens de droite sont venus chez lui. Bon, il a quand même eu Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas l'aile centriste de la droite. Gérald Darmanin a toujours été un proche, notamment de Nicolas Sarkozy, et qui a toujours été très braqué sur la sécurité, notamment. Donc, il a bien compris, la gauche, il ne doit plus aller chercher quelque chose, il n'y a plus rien à les prendre. Il va sur la droite, et là, il réussit aussi son coup. Il les installe, il a mis Édouard Philippe comme Premier ministre, c'était un beau symbole pour lui. Et donc là, il s'est rendu compte que tout le panel, il l'avait, il laisse plus que les extrêmes. Et c'est vrai que, si vous voyez la campagne de Valérie Pécresse, elle ne sait pas l'attaquer sur son bilan socio-économique, puisque dans le même temps, ses résultats sont bons, notamment en matière de chômage. La baisse du chômage est quand même très conséquente. Donc, elle l'attaque comment? Elle doit jouer comment? Elle joue en reprenant des thèmes comme l'immigration ou l'insécurité, qui sont les thèmes surtout porteurs de l'extrême droite. Ou en plus de Marine Le Pen, il y a Éric Zemmour qui vient de la droite. Ça devient compliqué. Lui, il les met vraiment sur une sorte d'extrême à droite et ça lui laisse un grand champ à Emmanuel Macron, de la gauche jusque vraiment les limites des Républicains. C'est avec ça qu'il gagne.
C'est vrai que du côté de l'économie, c'est difficile de l'attaquer. Hein. Les chiffres sont sortis. Il y a 1 million d'emplois supplémentaires depuis 2017.
Il y a là une opportunité, il y a là un boulevard pour le candidat qui saura aller sur cette gauche. Et Emmanuel Macron l'avait fait en 2017 et effectivement, il a été élu sur ses électeurs de gauche. Aujourd'hui, comme le disait Monsieur Plenel, c'est vrai que son bilan sur les réformes sociales, son bilan sur cet électorat de gauche est assez mince finalement. Et donc, est-ce que là, par rapport à la droitisation qu'on a pu observer au cours de son bilan et au cours de son mandat, est-ce que réellement il ne perd pas à nouveau une opportunité, ce monsieur ?
Dans le même temps, à gauche, c'est vrai la remarque de Johanna, mais il faut quand même bien dire qu'il n'y a plus de leader naturel comme il y a eu François Mitterrand. Il n'y a plus de leader légitime comme a pu l'être François Hollande en 2012 parce qu'il avait gagné la primaire de gauche. Donc il y avait quand même 3 millions de votants, il l'avait gagné. Et puis il n'y a plus un parti fort. Le PS, qui a toujours été le parti fort depuis 1974 jusque 2017, chaque fois qu'il y avait un candidat de gauche qui arrivait le plus haut possible à une présidentielle, c'était toujours un socialiste. Sauf en 2017, pour la première fois, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il venait du PS, il était ministre de François Mitterrand, mais c'est la première fois que le candidat socialiste était derrière. Donc il n'y a plus de leader naturel à gauche et il n'y a plus de parti fort. C'est difficile pour l'instant pour la gauche de trouver sa ligne.
Difficile pour la gauche, plus personne à gauche, Edwy Plenel. À droite, c'est compliqué aussi. Ce qui est arrivé au PS, est-ce que c'est tout doucement ce qui est en train d'arriver du côté de la droite chez les Républicains ?
La droite a déjà un pied chez Emmanuel Macron. C'était les fidèles d'Alain Juppé avec Édouard Philippe. Et donc, les difficultés de la campagne de Valérie Pécresse vont continuer à se traduire par des ralliements symboliques venus de la droite. Jean Castex, le Premier ministre qui a succédé à Édouard Philippe, vient de la droite aussi. Et il y en aura d'autres. Mais sur la gauche, je trouve que vous allez un peu vite en besogne sur la dynamique actuelle de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, sa troisième campagne présidentielle, où il a évolué. Il y a des choses nouvelles dans cette campagne par rapport à des constantes hein, de personnalisation, de pouvoir un peu personnel autour de sa formation. Il ne faut pas oublier que Jean-Luc Mélenchon a un mouvement qui par certains aspects, a une dynamique au départ comme celle d'En Marche. Hein, c'est-à-dire c'est un mouvement qui prend acte de la décomposition d'un ordre ancien et autour d'une personne, d'un leader, avec tous les risques que ça peut avoir, essaye de créer autre chose. Or là, dans cette campagne, ce qui me frappe, c'est qu'il se sont ajustés justement autour des mouvements de la société et qui est là toujours l'ancrage de renouvellement de la gauche. La gauche, c'est quoi la gauche ? C'est vouloir changer l'ordre des choses face à des injustices, face à des immobilités, face à des dominations. Et cette campagne qui est autour de ce Parlement d'union populaire, cette idée, puisqu'on ne peut pas faire l'union entre partis, faisons l'union à la base, eh bien, elle ramène du monde, elle ramène des gens. Et je ne suis pas prophète, mais vous savez que le ticket d'entrée pour le second tour sera bas, très en bas. Raison à la fois des divisions de l'extrême droite, qui sont deux candidats presque qui se côtoient, à la fois de l'abaissement de la droite et de l'éclatement des autres candidatures. Et donc, le pari que fait Jean-Luc Mélenchon, on va voir s'il le gagne, c'est que ce qu'il appelle le trou de souris, hein, c'est de se retrouver au second tour et donc de recréer autour de lui un affrontement gauche-droite. Car la politique a horreur du vide. Et cette décomposition de la gauche, eh bien, dans le peuple de gauche, comme on disait du temps de Mitterrand, ou du temps d'une gauche beaucoup plus conquérante et massive, eh bien, il est en attente de refonder un affrontement gauche-droite et de sortir de ce faux en même temps, qui est un attrape-nigaud, qui dans la réalité n'est pas un en même temps. Et donc là, je crois qu'il y a une dynamique, quoi qu'on pense, et quelques réserves qu'on puisse avoir sur le fond de ce mouvement politique, ils sont beaucoup mieux, comment dire, c'est une campagne beaucoup mieux préparée, beaucoup mieux organisée, et de fait, alors que ça aurait dû être le temps des écologistes et de Yannick Jadot, et avec l'urgence climatique, les questions internationales que porte le courant écologiste, eh bien là, il y a une dynamique particulière, et c'est ça qui se passe. Face à la décomposition du PS, vous l'avez rappelé, Jean-Luc Mélenchon est fondamentalement mitterrandien. Il n'est pas d'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon. Il vient vraiment de l'histoire profonde du PS. Hein. C'est son histoire, et Mitterrand est son modèle. Et au fond, il essaye de reconstituer une alternative de gauche, et c'est ça qu'ils sont en train de faire, là. Je ne sais pas s'ils vont y réussir, mais c'est le pari pour le second tour.
Allez, on jette un petit coup d'œil dans le rétro. J'avais vraiment envie de partager avec vous ce moment. On est le 10 décembre 2016, à la porte de Versailles, et il y a un moment culte, on l'écoute.
Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France.
Marc, on vient d'entendre Emmanuel Macron surexcité dans la salle. Alors, on est en radio, mais il faut quand même s'imaginer, il y a une dame en jaune qui se demande même qu'est-ce qu'il est en train de faire. À l'époque, il est pas du tout comme aujourd'hui. Il est en transe, là.
Oui, il est en transe. Et quand vous écoutiez ce discours à l'époque, c'était pas toujours très bien suivi ou très cohérent. Il partait d'un point, il allait vers un autre. Vous aviez parfois l'impression, en ayant écouté Emmanuel Macron pendant une heure, peut-être qui du Plenel dira autre chose, mais qu'on ne savait pas où il allait. Et souvenez-vous de certains débats où tous les candidats étaient présents, Emmanuel Macron n'est jamais sorti du lot. On ne pouvait pas dire en l'écoutant, il a du charisme, et il n'a pas le charisme par exemple d'un Jean-Luc Mélenchon, c'est évident. Donc c'est vrai comme quoi,